7h51 à Paris, votre invité, le premier invité politique de cette matinale avec vous, Frédéric Rivière. Vous recevez ce matin Raquel Garrido, porte-parole de la France Insoumise.
Bonjour Raquel Garrido.
Bonjour.
51,29% d'abstention, c'est un record sous la Ve République. Comment vous expliquez ce résultat, cette démobilisation des électeurs ?
Je pense qu'il y a une logique institutionnelle en Ve République. C'est une monarchie présidentielle et les Français savent que le pouvoir est localisé à l'Élysée. Donc ils viennent à l'élection présidentielle parce qu'il y a un enjeu important. Mais rendu au moment de l'élection législative, ils font le constat que, dans le fond, il s'agit d'une chambre au mieux godillotte. Et donc, ils ne jouent pas à ce jeu-là. De toute façon, regardez, entre les
deux... Ils auraient pu savoir aussi et comprendre, puisque Jean-Luc Mélenchon l'a beaucoup dit pendant la campagne, que sans majorité, un président ne peut pas appliquer son programme.
Écoutez, en théorie, ce que vous dites là est vrai, et on avait raison de tenter ce coup-là pour que les gens viennent. Mais la réalité, c'est que c'est une monarchie présidentielle et qu'ils jouent à plein. Emmanuel Macron, regardez ce qu'il a fait entre les deux tours. Premièrement, il a annoncé qu'il gouvernerait par ordonnance, en ce qui concerne en tout cas la réforme du Code du travail qui touche des millions de Français. Donc les ordonnances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés en marche ne feront même pas leur travail de députés. Ils lèveront la main pour habiliter le gouvernement à travailler à leur place. Et en tout en disant, nous à la fin on va applaudir le président. Donc ça s'appelle dénigrer le Parlement et c'est fait joyeusement sans que personne n'y trouve rien à redire. Donc forcément ça génère du désintérêt dans l'Assemblée nationale elle-même. Et puis j'ajoute que la loi sur la moralisation qui a été dans le fond le seul message qu'ils ont passé réellement avant la législative, c'était beaucoup de parlement bashing, c'est beaucoup d'anti-parlementarisme ambiant dans cette loi, parce que dans le fond, les parlementaires sont présumés vouloir embaucher leurs enfants à tout bout de champ, sans
ça
mettre par les
c'est
fouilles.
Beaucoup fait, il faut bien en convenir.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la réponse à tout ça aurait pu être de donner plus de pouvoir aux citoyens, par exemple avec le droit de révoquer les élus entre les élections, de vraiment créer une...
Qu'on a renforcé la défiance au fond à l'égard des élus.
Et ils ont fait que la défiance, en fait, puisque la seule chose qu'ils ont faite, c'est de dire du mal des députés. Donc tout ça génère de l'abstention. C'est une catastrophe démocratique et plus que jamais, ça oblige à réfléchir sur l'avènement d'une 6e République dans laquelle notamment le vote serait obligatoire. Ça, c'est la proposition de la France Insoumise. Et évidemment, ça implique de reconnaître le vote blanc et nul dans le suffrage exprimé pour que, évidemment, on sait c'est obligatoire de voter, mais c'est pas obligé de voter pour ceux qui sont là. Il faut aussi des seuils de représentativité, c'est-à-dire quand on n'est pas assez élu, on n'est pas élu. Voilà, il faut que le seuil de représentativité par le vote blanc puisse éventuellement annuler des élections.
Alors Jean-Luc Mélenchon a fait 19% au premier tour de la présidentielle. La France Insoumise obtient 11% au plan national au premier tour de ses législatives. Il y a tout de même de 19 à 11, 8 points de moins. Comment vous l'expliquez cette régression ?
D'abord par la baisse d'intensité entre présidentielle et législative dont nous venons de parler. Et puis moi, ce que je préfère voir, c'est surtout l'enracinement qui a eu lieu, parce que c'était un mouvement très jeune, né spécifiquement pour une présidentielle. Donc il y avait une question pendante qui était de savoir si on était capable de multiplier cette candidature présidentielle partout en France. Et nous avons réussi à proposer 560 candidatures, ce qui est déjà un fait majeur. Et en plus, dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de circonscriptions, ce sont des insoumis qui sont au second tour aujourd'hui pour représenter les idées écologistes, humanistes, de progrès, de 6e République. Moi, j'en suis extrêmement fière parce que toutes les figures de ce mouvement France Insoumise sont aujourd'hui au deuxième tour. Vous prenez Charlotte Girard, responsable du programme en Essonne, elle est au deuxième tour. Manu Bompard, le directeur de campagne à Toulouse, il est au deuxième tour. Mathilde Panot, qui était la jeune responsable des caravanes insoumises dans les quartiers populaires, elle est au deuxième tour à Ivry. Et on a évidemment d'autres figures qui sont dans des ballottages très très favorables, comme Jean-Luc Mélenchon lui-même et Alexis Corbière à Montreuil-et-Bagnolet.
Tout le monde s'est accordé à dire, tout le monde ou presque, que Jean-Luc Mélenchon avait fait une très bonne campagne présidentielle. Est-ce que sa campagne des législatives n'a pas justement été un peu moins bonne? Est-ce qu'il n'est pas retombé dans ce que certains considèrent comme son travers naturel, c'est-à-dire une forme d'agressivité, d'exaltation incontrôlée?
Non. Je trouve que il faut pas faire de la politique avec de la psychologie.
Mais je pense, par exemple, quand je dis ça, à ses propos sur Bernard Cazeneuve, quand il a parlé lui en disant le gars préparé l'assassinat de Rémi Fraisse.
Du Bernard Cazeneuve, on y a passé des plombes.
Qui s'est occupé
entre
voilà,
les
de
deux
l'assassinat
tours
de Rémi
cette histoire.
Non, mais enfin voilà, est-ce qu'il n'est pas ressorti
Moi je pense à l'inverse. Je pense à l'inverse que quand on fait comme ça, sans la candidature de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'il était par définition candidat que dans une circonscription, et qu'on arrive à retrouver 2,5 millions de voix, je trouve à l'inverse que ça démontre qu'il y a un électorat France Insoumise qui vote sur un programme, le programme L'Avenir en Commun, avec toutes ses composantes, voilà, sociales, écologistes et démocratiques, et c'est ça qui m'intéresse pour la suite.
Alors Jean-Luc Mélenchon hier soir a dit, je le cite, l'abstention montre qu'il n'y a pas dans ce pays de majorité pour détruire le code du travail, pour restreindre les libertés publiques et pour cajoler les riches. Mais les résultats forcent à constater qu'il n'y a pas non plus de majorité pour s'opposer à ce qu'il dénonce, lui.
Absolument. De toute façon, avec 51% d'abstention, il n'y a pas de majorité tout court, vu que 75% des Français n'ont pas voté Macron.
La démocratie est ainsi faite qu'il y a une majorité et qu'elle est en faveur d'Emmanuel Macron.
Disons les règles actuelles de la monarchie présidentielle en 5e République, c'est évident. Après, ce qui n'est pas loyal, selon moi, justement, en démocratie, c'est de ne pas soumettre à la délibération, donc à la campagne, le contenu exact des motivations du gouvernement, notamment sur la loi travail. Je trouve déloyal le fait que, dans un langage finalement assez peu signifiant, le Premier ministre a confirmé le projet qui avait fuité dans la presse et qui consiste à donner toute latitude au niveau de l'entreprise pour déroger au code du travail, aux conventions collectives, et ce, en toute matière, et notamment, pour moi, ce qui est plus grave, en matière de salaire. Parce qu'en réalité, quand on regarde vraiment le projet, ça consiste en une baisse généralisée des salaires en touchant aux grilles salariales des conventions collectives. Et ça, c'est une catastrophe, puisque le salaire médian en France, c'est 1 800 €. Donc voilà, le gouvernement, il pense que les Français en gagnent trop. Bon, or, ils ont qu'à vivre, eux, avec ces sommes-là. Enfin, c'est très, très difficile pour les Français. C'est ça l'enjeu aussi du deuxième tour de
c'est là-dessus que la France Insoumise va faire sa campagne, en grande partie, sur cette affaire du Code du travail.
Oui, et oui, il faut absolument que toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, quelle que soit leur affinité politique, se regroupent derrière les candidatures insoumises pour faire barrage à cela. Faciliter les licenciements aussi, c'est absolu. Ça n'a jamais été un facteur de création d'emploi. Et en définitive, de toute façon, ce qui n'est pas démocratique, je vous le disais tout à l'heure, c'est que des députés En Marche vont à l'Assemblée, percevoir leurs indemnités d'élus en disant je ferai pas le travail vu que je vais habiliter l'exécutif pour le faire à ma place. Au moins, les candidats insoumis feront réellement le travail pour lequel ils ont été mandatés par les électeurs.
Est-ce que vous vous réjouissez de la débâcle du Parti Socialiste, puisqu'on se souvient que Jean-Luc Mélenchon a dit ce que je veux, c'est remplacer ce parti?
Non, je me félicite pas parce que il faut regarder vers l'avenir. De toute façon, ça, vous savez, la crise interne à la gauche a généré énormément de difficultés sociales au quotidien réel pour les gens. Donc maintenant, il faut se projeter vers l'avenir et ce qui, il me semble nécessaire que chacun fasse un peu le bilan là où il est. En tout cas, nous, la France Insoumise, on met à disposition de tout le monde un mouvement qui est utile pour le combat pour la justice sociale et notamment pour avoir une autre vision de la création d'emplois que celle qui est proposée par le président Macron.
Merci Raquel Garrido, bonne journée.
Merci à vous.